Allez, donc on va commencer. Bonsoir. Je vous ai préparé un petit exposé sur en fait la microélectronique à travers deux parties. Les propriétés intellectuelles et ce qu'on appelle le licensing. Donc on verra, on déterminera les termes de ces termes-là pour un peu comprendre qu'est-ce que ça veut dire. Donc globalement, en fait, pourquoi en fait je parle de ça? Parce qu'en fait, la microélectronique, elle est un peu partout autour de nous. Elle est donc dans nos poches, sur nos tables de nuit, sur nos ordinateurs. On la côtoie donc tous les jours. Et on la côtoie donc sans vraiment savoir d'où est-ce qu'elle vient et qu'est-ce qu'elle fait. On va voir donc que. Quand on parle de microélectronique, on va avoir une fraction de la microélectronique en réalité, parce que je ne vais pas parler de tout, parce que je ne connais pas tout, mais je vais parler en particulier donc des propriétés intellectuelles et du licensing. Donc en fait, je vais vous définir ce que c'est d'abord la microélectronique dans ce que je vais parler. Donc ce que j'entends par la microélectronique, c'est en fait tous les systèmes qui ont pour objet d'étude ou de fonctionnement ou de fabrication de matériaux à l'échelle microélectronique, enfin micrométrique et en dessous. Donc par exemple tout ce qui est donc composants microprocesseurs, ce genre de choses. Il y a d'autres composants électroniques mais qui ne sont pas inclus dans la microélectronique. Ensuite, le point clé, ce sera donc les IP, parce qu'en fait dans la microélectronique on parle tout le temps d'IP. Qui signifie donc propriété intellectuelle et c'est un peu spécifique parce que c'est pas vraiment la propriété intellectuelle de manière globale, c'est une spécificité de la propriété intellectuelle, donc c'est-à-dire que c'est toute conception ou idée donc de microélectronique qui est en fait propriétaire, qui sera donc la propriété d'une entreprise ou d'une personne. Bon, la façon c'est une entreprise. Un exemple, ce serait par exemple une entreprise qui développe donc par exemple Intel, ses processeurs Intel, enfin Pentium à l'époque, ils avaient donc une propriété intellectuelle, c'était leur architecture, personne d'autre pouvait, enfin, avait le droit légal de l'utiliser sans passer par eux et les dédommager si jamais ils l'utilisaient. Et enfin donc le licensing. Licensing donc c'est un terme anglais. Par là, donc ça comprendra en fait tous les types de contrats qui engagent donc les deux parties ou plus sur les conditions d'utilisation donc justement de ces IP. Donc typiquement, une personne donc par exemple Samsung qui voudrait produire une IP donc qui appartiendrait à une autre entreprise devra donc faire un contrat de licensing pour justement définir les droits et d'usage donc de cette IP et qu'est-ce qu'elle doit en échange donc donner à l'entreprise. Voilà, donc je voudrais juste rajouter un autre point, donc c'est-à-dire que en microélectronique, il y a certains mots qui sont toujours utilisés, qui ressortent, en tout cas dans l'industrie. C'est d'une part la loi de Moore. Donc la loi de Moore, vous l'avez sûrement lu dans certains journaux, ça définit donc que tous les 2 ans, les processeurs doivent doubler en nombre de transistors, donc enfin, par corollaire, ils doivent être 2 fois plus puissants. C'est pas exactement ça, mais globalement c'est l'idée. Pour en discuter de la loi de Moore parce qu'effectivement il y a quelques questions qui disent est-ce qu'on y est toujours ou est-ce qu'on atteint un mur. Donc cette loi de Moore, juste pour donner un petit peu de contexte, c'est en fait il y a les années 70, je sais plus, 80 plutôt, une personne a constaté que chaque année, et tous les 2 ans, ça doublait. Donc il a dit la microélectronique, tous les 2 ans, doublera au niveau de la densité des transistors. Ensuite, donc, il y a le time to market. Ça, c'est quelque chose de beaucoup plus marketing, on va dire. Mais c'est quelque chose qui pousse la microélectronique à justement aller toujours de l'avant et à avoir des nouvelles, des nouveaux produits. Donc, time to market, c'est-à-dire que on a un produit qu'il faut développer et il faut qu'il soit rapidement sur le marché parce qu'il faut vendre. Effectivement, la microélectronique, c'est un des secteurs qui est le plus rapide en termes de temps de conception d'un produit et de sa mise sur le marché. En général, donc dans des sous-projets, ils feront entre 6 mois et 1 an et demi, rarement plus. Comparé à d'autres projets qui sont beaucoup plus lents sur des projets de satellites qui font parfois 10 ans, c'est quelque chose d'extrêmement court. C'est un des rares domaines où on a justement des échelles de temps assez courtes. Et ensuite, on a un autre mot d'ordre qui s'appelle donc le design and reuse. Alors ça, c'est un peu particulier, c'est-à-dire que dans la microélectronique, on va dire que dès qu'on va concevoir quelque chose, on va essayer de trouver de quelle manière on peut le réutiliser. Et même parfois de se dire, ok, on va prendre du retard sur le développement pour essayer de dire comment on va essayer de pouvoir le réutiliser plus tard. Donc c'est quelque chose de très important parce que c'est une part de l'efficacité de la microélectronique et de son rendement assez élevé. Et enfin, donc il y a la dernière partie, c'est l'innovation. On est en microélectronique, il faut tout le temps innover. On nous demande toujours si on a des nouvelles idées, si on a des brevets à développer. La microélectronique cherche toujours à avoir un nouveau souffle pour proposer de nouveaux produits. Entre autres, et aussi c'est pour pallier au problème de la copie. C'est-à-dire que si une personne copie un produit ancien, mais nous on a un nouveau produit qui est innovant, donc on a quelque chose que le client pourra apprécier plutôt qu'un ancien produit. Donc, après tout ça, on va attaquer le sujet en tant que tel. La microélectronique, les IP. Alors, les IP, on va définir brièvement donc qu'est-ce que c'est au niveau global, pas dans la microélectronique, mais dans le monde en général. Donc, les brevets, les marques commerciales, les dessins industriels, les droits d'auteur, les copyrights, les variétés de plantes, les dessins, les modèles. Tout ça fait partie en fait de ce qu'on appelle la propriété intellectuelle. Et en fait, ça permet de protéger, enfin de définir une idée et de dire, ok, on peut donc soit la protéger, soit la marchander. Voilà, c'est ce qui permet de dire c'est quelque chose d'original et de l'attribuer à une personne ou une entreprise. Typiquement, par exemple, le droit d'auteur donc pour une musique, c'est une propriété intellectuelle. Et donc, du coup, si jamais on souhaite l'utiliser, il faut demander l'accord à la personne qui a cette propriété. Voilà. On parlera pas donc effectivement de tout ce qui est enfreint des règles de propriété intellectuelle, on parlera juste de qu'est-ce que c'est et comment c'est utilisé dans la microélectronique. Donc, comme je disais tout à l'heure, en fait, quand on parle d'IP en microélectronique, c'est un abus de langage. On a vu que l'IP, ça définissait beaucoup de choses, et qu'en microélectronique, ça définit quelque chose de particulier, c'est-à-dire que ça définit en fait le produit, sa propriété et le type d'objet. Un exemple concret, si je dis les IP par exemple de modem, ce sera donc toutes les architectures de modem qui définissent donc le produit. Si je voudrais acheter à quelqu'un un modem, il me dira voilà mon IP modem. Et donc à la fois ça comprend donc le produit, le fait qu'il soit propriétaire de cette innovation et le type d'objet, donc le modèle. Ensuite, en microélectronique, une petite question, je regarde. 6 mois, c'est vraiment très rapide pour produire de la microélectronique, en particulier pour des projets extrêmement indispensables. Alors effectivement, 6 mois, c'est pour le développement des produits, c'est pas pour la mise en production. C'est-à-dire que par exemple, tu peux avoir des produits qui ont déjà donc toute la technologie mise en place. Par exemple, imagine que tu as des processeurs Apple qui sont déjà sur la ligne de production et que tu veux développer un sous-produit à Apple qui fasse un truc avec une énergie beaucoup plus basse en consommation. Et donc du coup, c'est des projets qui prendront 6 mois parce que déjà toute la structure est déjà prête. Il faudra juste customiser en fait le produit. Alors, pour Dany, pour répondre à la nanoélectronique, on peut parler effectivement de nanoélectronique, ça, il y en a qui le font, mais la plupart du temps, on utilise le terme microélectronique parce qu'en fait, c'est tellement global et on va parler plutôt du secteur plutôt que de la technologie. Mais actuellement, effectivement, on est plutôt à des échelles nanométriques, mais on n'a jamais changé en fait le nom en fait de la technologie. Alors oui, effectivement, je rejoins tout à fait Arthes sur la nomination en fait des technologies, 10 nanomètres, 7 nanomètres, 5 nanomètres, c'est plus marketing que la réalité. Donc je reprends sur les IP en microélectronique. On va différencier deux types d'IP. Les IP, en fait, on va pouvoir dire que c'est des IP physiques, donc qui correspondent en fait à des briques de base, et les IP d'architecture ou soft, en général, architecture c'est un peu spécifique, qui sont en fait la notice d'assemblage de ces briques de base. En fait, c'est comme des Lego. Dans une boîte de Lego, on a les Lego et la notice. La notice, c'est les IP d'architecture, comment les construire. Et les IP physiques, c'est les briques avec lesquelles on construit. Pour ce qui est de l'architecture, c'est ce qui est la partie en réalité la plus rentable, on va dire, des entreprises en microélectronique. Pourquoi? Parce qu'en fait, lorsqu'on a créé donc la propriété intellectuelle, donc l'architecture, on n'a pas besoin de la tester physiquement, c'est-à-dire qu'on a juste besoin de faire des tests numériques pour voir si c'est fonctionnel. Et c'est pas dépendant de la technologie, c'est-à-dire que pour que ce soit par exemple, du 28 nanomètres ou du 7 ou du 10 nanomètres, ce sera souvent la même chose. Du coup, on peut l'utiliser pour plusieurs technologies. Et ça, c'est intéressant justement. D'avoir quelque chose qui ne soit pas dépendant de la technologie. Par contre, elle n'est adaptée qu'à un seul type d'utilisation. C'est-à-dire que si on veut faire une architecture donc de processeur, ça ne sera que du processeur. Il pourra faire du modem, mais il ne sera pas efficace vraiment pour faire du modem. Donc, on va prendre un exemple concret. Amazon veut fabriquer des serveurs. Il veut, ça a été le cas il y a quelques années. Donc il va faire des démarches, il va demander à plusieurs entreprises des devis, faire des propositions commerciales. Et au final, par exemple, il choisit ARM. Donc ARM est en fait une société qui propose des IP, que des IP, elle ne fabrique rien. Du coup, elle choisit ces processeurs-là et elle choisit en fait de fabriquer ces processeurs avec une fonderie, donc la fonderie c'est ce qui fabrique avec GlobalFoundries. Donc en réalité, qu'est-ce qui s'est passé? Donc Amazon dit, moi je veux vendre des serveurs, enfin je veux vendre du temps d'utilisation de serveurs. J'ai besoin pour ça de processeurs qui me permettent de faire ces serveurs. Donc du coup, je demande à ARM. Mais ARM ne fabrique rien. Donc du coup, j'ai besoin de quelqu'un qui fabrique. Et qui fabrique? Eh bien, c'est GlobalFoundries, donc c'est une autre entreprise qui va avec cette technologie, donc justement fabriquer ce processeur. Donc là, Amazon va justement devoir payer plusieurs parties. Il va devoir payer ARM pour l'utilisation de son IP, donc à travers des licences, on verra ça plus tard. Et il devra aussi payer donc Global Foundry, donc la fonderie, pour pouvoir donc fabriquer le matériel en tant que tel. Après, bon, effectivement, là, il y a l'agencement du matériel, tout ça, pour d'autres entreprises qui s'en occuperont. Et si on reprend donc l'exemple du Lego, l'architecture, c'est vraiment la notice de fabrication. C'est-à-dire que c'est la notice de fabrication. Et en fait, on voit que c'est limité au niveau donc de la réutilisation, par exemple, parce que il n'a qu'une seule utilisation, c'est l'utilisation pour être du modem. Alors, on peut effectivement, par exemple, on pourra dire que on va l'utiliser pour un produit intégré, c'est-à-dire qu'on va dire, on va prendre cette notice, on va la mettre dans un autre produit plus gros où cette notice sera inclue. Et donc là, il y aura du reuse. Et ce reuse-là, dans la microélectronique, c'est toujours c'est recherché. C'est-à-dire qu'on essaie toujours de trouver un moyen de reprendre ce qu'on connaît déjà pour le remettre. Déjà parce qu'on le connaît, on sait que ça fonctionne. Et d'autre part, parce que c'est rentable, et parce que ça nous permet de ne pas avoir de développement. Alors, certaines entreprises ne font que de la vente d'IP. Comme on a vu, ARM ne fait que de la vente d'IP. Et ça s'appelle en fait des fabless. Parce qu'ils n'ont pas de fonderie, de fabrication. Et en fait, il y en a qui sont spécialisés dans l'IP d'architecture. ARM, à la base, était spécialisé là-dedans. Après, à force d'achat, il a racheté d'autres entreprises qui fabriquaient donc ces IP. Donc c'est souvent le cas. Certaines boîtes, pour avoir des nouveaux parts de marché, rachètent des autres entreprises spécialisées dans certains types d'IP. Par exemple, je sais que Apple avait racheté une entreprise justement pour des modems pour leur téléphone, pour pouvoir contrôler le modem et justement ne pas avoir à demander à une autre partie d'avoir ces IP. J'espère que je lis un peu les questions. Voilà, donc Art a donné des détails très parfaits sur les sur les technologies. Il sous-traite les fabrications après. Alors c'est pas vraiment de la sous-traitance, c'est-à-dire que tu vas demander en fait à une entreprise de faire la fabrication. Plus que de la sous-traitance, c'est pas toi qui vas dire oui moi je veux ça, moi je veux ça, moi je veux ça. Tu vas utiliser l'expertise de l'entreprise pour pouvoir avoir ton produit final. On va passer aux IP physiques. Donc là on a vu les IP d'architecture, donc c'était vraiment la notice de fabrication. Pour tout ce qui est physique, c'est par exemple... Alors, l'IP physique elle est plus coûteuse parce qu'en réalité elle est dépendante de la technologie. Et pour la tester, il faut la fabriquer. Donc il faut payer la fonderie pour qu'elle fabrique l'IP et qu'elle dise si ça marche ou pas. Souvent, ça marche pas au début. Parce que d'une part, la technologie n'est pas mature, et d'autre part, parce que les erreurs, ça arrive. Donc dans les IP physiques, quelques exemples, c'est par exemple les mémoires, les DDR, les I/O, donc input-output, ce genre de choses, si vous avez déjà entendu ces noms. Par contre, elles ont l'avantage de pouvoir être utilisées dans différents types de produits. Alors que, donc, par exemple, pour la notice, on ne pouvait l'utiliser que pour une seule fonction, comme là c'est des briques de base, on peut construire différentes choses avec. Donc, par exemple, toutes les standard cells, donc c'est les briques élémentaires, on va dire, pour la logique, elles peuvent être utilisées dans tous les systèmes, numériques, analogiques, spécifiques. Et du coup, ces briques élémentaires, si on les achète, on a la licence, on peut fabriquer plein de choses avec. C'est comme un Lego, on peut vraiment fabriquer différentes choses. Il suffit après d'avoir la notice avec. Donc, je reprends un exemple concret. On va prendre Apple. Apple veut un nouveau processeur pour ses nouveaux iPhones. Donc, d'habitude, il utilise les processeurs ARM. C'est ce qu'il a toujours fait. D'ailleurs, ARM a 98%, je crois, du part de marché des processeurs de smartphones. Il faudrait que je retrouve les chiffres, mais je crois que c'est à peu près. Ils utilisent un processeur. Par contre, pour les composants de base, TSMC, donc c'est une fonderie, c'est ceux qui fabriquent, ils leur font une offre plus intéressante. C'est-à-dire qu'ils vont dire, par exemple, en fait, quand on fabrique, il y a toujours une part où tu as des objets défectueux. Et nous, ce qu'on va faire, on va vous trier ces objets défectueux. C'est quelque chose qui est dépendant de la technologie, tu as 5-10% qui sont défectueux, c'est comme ça. Nous, ce qu'on va dire, on va pas vous les faire payer, on va vous les trier. Donc du coup, ils sont peut-être moins performants ou aussi performants, mais dans le résultat, ça fait que ça sera moins cher pour Apple, enfin bien qu'Apple ait les sous pour payer en fait des choses beaucoup plus chères. Mais niveau, si pour une performance équivalente, TSMC pourrait être donc justement moins cher. Et ça, c'est l'intérêt d'avoir justement le contrôle sur sa production. Et donc du coup, les IP physiques, donc les briques de base, seront celles du fondeur TSMC et pas celles de ARM. Donc pareil que pour les IP d'architecture, les IP physiques, il y a des entreprises qui sont spécialisées dans cette vente-là. Par exemple, en France, on a une entreprise qui s'appelle Dolphin qui est spécialisée dans les IP physiques et le design et donc la conception. Par contre, c'est un peu plus rare effectivement que les architectures parce que ça rapporte moins, c'est un peu un marché de niche. En général, en fait, c'est plutôt des contrats spécifiques qu'ils ont avec des ASIC ou des choses comme ça. Ils demandent de développer des produits spécifiques pour des entreprises qui ont un projet particulier. Et après, donc souvent, comme j'ai dit tout à l'heure pour ARM, les entreprises rachètent ces IP physiques pour étendre leur part de marché. Et en général, ils proposent donc justement ces deux types d'IP. Il y a d'autres entreprises, comme par exemple des entreprises de simulation, on va dire. Typiquement, Synopsys et Cadence. Donc, c'est deux entreprises qui font en fait des outils de simulation pour la microélectronique et autres en général. Et eux, en fait, comme ils font de la simulation, ils ont étendu leur marché en disant, eh ben, on va étendre notre marché aux IP physique parce que on les simule, on sait comment ça marche, donc on a une expertise dessus. Donc ils ont fait des rachats, ils ont étendu leur part de marché là-dessus. Très proclamateur. Alors, on continue avec. Ah, oui, donc en fait, il faut préciser, car en réalité, j'ai sur l'image de la boîte de Lego, j'ai un peu triché. Donc, sur la notice. Pour l'architecture, les produits d'IP d'architecture, c'est juste, c'est une notice. Par contre, pour les briques de base, effectivement, c'est pas les briques de base en tant que telles que vendent les fournisseurs d'IP physique. Ils vendent seulement la notice pour fabriquer ces briques de base. Et ces briques de base, après, sont fabriquées par les fonderies et elles sont fabriquées dans le circuit global. En fait, c'est vraiment que des notices de fabrication qu'on vend. Mais bon, c'est plus imagé avec la brique et la notice. On va passer à la partie un peu plus compliquée, les licensing. Alors, le licensing, donc j'ai fait une faute, il n'y a pas de S, c'est avec un C et un S comme ça. C'est comment faire un contrat dans la microélectronique pour justement utiliser ces IP. Parce qu'en fait, en réalité, ce que je ne vous ai pas dit, c'est qu'il y a des entreprises qui n'ont pas d'IP, qui fonctionnent toutes en interne, c'est-à-dire qu'elles conçoivent le produit, enfin elles conçoivent le projet, elles conçoivent le produit, elles fabriquent le produit et elles vendent le produit. C'est de plus en plus rare. Intel faisait ça, il le fait de moins en moins. D'une part parce que technologiquement l'avancée c'est plus compliqué. Par exemple, ils ont eu des problèmes en 5 nanomètres, je crois. Non, c'est 7 nanomètres, ils ont abandonné le nœud. Le nœud, en fait, c'est ce qu'on appelle la technologie. Et ils ont dit, on va passer directement à celle d'après. Oui, parce qu'en fait, les nœuds technologiques sont développés tous en parallèle. C'est-à-dire que lorsqu'on produit actuellement, il y a des puces qui sont en 5 nanomètres, ben, il y en a déjà qui recherchent en 3 nanomètres et en dessous en 2, et voire en dessous. Si. Tout est fait en parallèle. Donc, on revient sur les licences. Donc, les licences, comment acheter donc une IP, il faut passer par du licensing. C'est le terme que vous entendrez lorsque vous entendez, enfin, lorsque vous voudrez acheter une IP, lorsque des personnes feront des contrats pour dire ok, moi j'achète ça, moi je te vends ça. Donc principalement, il y a trois parties, trois systèmes. Donc c'est les contrats, donc les fees, donc ce qu'on paye direct, la licence, donc l'utilisation, et les royalties. Je vous dis tout de suite, les royalties, c'est ce qui rapporte le plus. Alors, la licence. La licence, en fait, donc c'est le terme anglais qui vient de license. Ça correspond en fait à la location ou l'achat du droit d'utilisation de la propriété intellectuelle. L'exemple type, c'est Windows. Lorsqu'on achète une licence Windows, on n'achète pas quelque chose, on n'achète pas un CD ou quoi que ce soit, on achète le droit d'installer et d'utiliser le logiciel sur son ordinateur. Et donc chaque type de licence, enfin chaque contrat de licence a un contour juridique différent, c'est-à-dire que avec chaque partenaire, on va avoir une licence différente. Microsoft, par exemple, c'est quelque chose de global pour tous les utilisateurs classiques. Mais en réalité, si on est une entreprise, la licence sera différente. Elle définira par exemple un nombre d'utilisateurs, un temps d'utilisation, et ou alors un forfait selon le temps d'utilisation. Donc la licence, elle va engager donc l'utilisateur à verser une somme définie par les deux parties pour justement, si jamais par exemple elle vend un produit utilisant la licence. Typiquement, si je fabrique une puce avec une licence dedans, on va reprendre l'exemple de ARM, du processeur, eh ben, je vais devoir, par exemple, vendre, si jamais c'est dans le contrat de licence, donner une partie donc une somme à ARM parce que j'ai utilisé sa licence. Maintenant, on attaque les royalties, qui est la partie la plus importante parce que c'est celle qui rapporte le plus. Alors, les royalties, c'est une somme reçue en fonction du bénéfice qu'aura donc le vendeur en utilisant une propriété intellectuelle. Typiquement, je vais dire à une entreprise, ok, je te vends mon IP, je te fais un cadeau, par exemple la licence, je te la fais pas cher, et du coup, je vais être rémunéré que par les royalties. Et effectivement, c'est ça qui va me permettre donc d'avoir des sous à la fin, alors que mon développement aura été peut-être plus cher que ce qu'il m'a versé au départ. Donc le système de royalty, pour ceux qui ne voient pas, c'est un peu comme quand un DJ utilise de la musique, il doit verser donc des droits à la SACEM, c'est parce que c'est des droits d'auteur pour les musiques. Donc la SACEM, c'est l'organisme qui s'occupe des droits d'auteur en France. Hop, je regarde les messages. Peut-être, ça je sais pas. Pour les cacher de nombreux, enfin pour les ciné. Alors, donc pour les royalties, c'est un peu spécifique parce que souvent c'est pas celui qui va demander à fabriquer donc le par exemple la puce qui va payer les royalties. Par exemple, Apple va dire voilà, je voudrais fabriquer 300 puces, enfin 3 millions de puces ARM avec TSMC, donc la fonderie TSMC. Ben en fait, c'est TSMC qui va payer les royalties à ARM, c'est pas Apple. Mais en fait, les prix que Apple va payer la puce, ben TSMC il aura répercuté donc combien ça a coûté, combien ça lui a coûté de payer les royalties à ARM. Et donc du coup, c'est pour ça qu'en fait, par exemple, TSMC dit ouais, non, je veux pas trop que vous utilisiez les IP des autres, je préfère que vous utilisiez les nôtres. Comme ça, ils n'ont pas à payer de royalties et ils font les puces moins chères. Et pour eux, ça attire plus de clients. Alors, il faut savoir que, donc, on a parlé des nœuds technologiques. Plus les nœuds technologiques sont bas, surtout à partir de 14, 7, etc., plus en fait, la technologie est très chère et moins de clients peuvent l'utiliser. En réalité, il n'y en a que 2 ou 3 dans le monde qui vont pouvoir l'utiliser. Mais en fait, il y a un tellement gros volume que ça va être rentable. Par contre, les royalties sont dépendantes du temps. C'est-à-dire que la première année, on va dire on a une royalty de 0,3% du bénéfice, deuxième année 0,2, etc. Et ça décroît de manière exponentielle. Donc plus la technologie est vieille, moins elle va rapporter. C'est une des raisons qui font qu'on veut toujours avoir les nouveaux nœuds technologiques. Et que dès qu'ils y sont, c'est là où c'est le plus intéressant. Alors, on va passer sur les contrats. Parce que les contrats, c'est donc ce qui englobe donc comment on définit la licence et les royalties. Il y a des contrats qui engagent juste les deux parties à dire ok, vous me développez ce produit et je vous donne cette somme-là. C'est le contrat simple, défini, classique. En fait, ces contrats-là sont assez rares. C'est plutôt des startups ou alors des entreprises, par exemple, d'aviation ou alors de satellites. Les satellites, c'est un peu plus compliqué parce que vu qu'ils n'ont pas une grosse production, ça va pas être très rentable. Du coup, ils vont devoir payer très cher le contrat avec le concepteur d'IP. Et du coup, même celui qui fait l'IP va dire, je suis pas sûr de vouloir développer pour vous parce que ça va pas être rentable. Du coup, c'est compliqué pour eux. Ils ont du mal à avoir des projets. Ensuite, donc il y a le contrat donc pour définir la licence. Donc comment on a le droit d'utiliser cette licence-là, la propriété intellectuelle. Donc comme on l'a dit tout à l'heure, en fait, ça dépend vraiment de qui utilise, comment on utilise. Par exemple, il y a des boîtes qui vous disent, ok, je vous fais une licence gratuite parce que vous êtes une start-up, que vous commencez, et que si jamais vous avez des bénéfices, j'aurai le contrat, enfin j'aurai les sous sur la suite du contrat qui est en fait les royalties. Parce que le contrat peut combiner licence, royalty et fees, donc dépenses de base pour pouvoir développer le projet. Donc effectivement, donc il existe, donc on vient de dire des contrats où en fait les produits qui sont développés ne sont pas à la charge donc, du client, parce qu'on sait que ce client-là, on va se rémunérer sur les royalties. Donc c'est souvent utilisé pour les fonderies, enfin les clients qui ont des gros volumes. Par exemple Samsung et Apple. On sait que par exemple ils veulent faire un nouveau téléphone, on dit ok, on ne fait pas de développement, on fait que un truc de royalty et on se payera là-dessus parce qu'ils ont tellement de gros volumes que c'est extrêmement rentable. Même parfois ils essaient de faire des ristournes sur d'autres, enfin tout ce qu'ils peuvent. Parce qu'il y a un gros combat entre les providers d'IP, enfin les vendeurs d'IP, pour justement avoir ces clients-là. Alors là, sur lorsqu'il y a trois intervenants, donc lorsqu'il y a trois intervenants, donc le vendeur d'IP, le client et la fonderie, ça s'appelle un third party. Donc ARM, Apple et TSMC. TSMC fabrique, Apple achète et ARM vend ses licences en fait. Et donc lorsqu'il y a des c'est très difficile de définir ces contrats. Parce que ces contrats-là, il faut que chaque partie soit définie, pas qu'elles aient accès à tout mon secret technologique. Je veux juste qu'elles aient accès à comment fabriquer, et après, le secret technologique, elle ne l'est pas. Donc ça, c'est défini donc justement dans ces contrats-là où il y a trois intervenants. Parce qu'en fait, si on fait un contrat avec Apple, Apple va dire moi je veux ARM pour fabriquer mes trucs, enfin pour avoir l'architecture. Et donc TSMC dit bon ben ok, vous êtes Apple, je peux pas dire non. Donc ils sont obligés d'accepter et de se plier. Après il y a d'autres petites boîtes où justement ils disent non, on vous faites avec nous sinon rien. Et quand c'est Apple, tu dis oui. Alors, on en a parlé un peu rapidement, la durée des contrats. Les contrats, donc, c'est des contrats en général qu'on fait qu'une seule fois, sauf qu'en fait, après, il y a des agreements et il y a toujours des choses qui sont faites par-dessus les contrats. Ils vivent les contrats, ils restent jamais stagnants. Par contre, il y a un gros problème sur le suivi des contrats, mais ça, c'est autre chose. Et donc, du coup, on a vu que au départ, on s'est rapporté beaucoup d'argent, et plus le temps passe, moins ça rapporte de l'argent. Par contre, vu qu'il y a toujours une production, bah, il faut que le voir, le mettre à jour, voir si c'est toujours rentable pour les deux parties, parce que s'il y a une partie qui dit que c'est plus rentable, ils vont essayer peut-être de clore le contrat. Dans ce cas-là, en fait, il y a des clauses pour clore les contrats. Et donc tout ça, après, c'est à définir déjà dans le contrat. Et ça m'amène à une autre question, c'est comment vérifier que les contrats sont bien respectés, que quand on utilise la licence IP, c'est bien payé. Et bien ça s'appelle les audits. Donc il y a les audits des providers d'IP, enfin des vendeurs d'IP et des audits indépendants. C'est-à-dire ils vont voir les comptes de l'entreprise qui fabrique et ils vont dire ah, là vous avez pas payé, là vous avez trop payé. Et en fait ils vont faire le total et dire est-ce que c'est ou pas correct. Et ça, c'est souvent des mauvaises interprétations du contrat qui font que y a des erreurs. Par exemple, typiquement, un Chinois va dire « Ah, mais je pensais que j'avais le droit de télécharger autant de fois que je voulais le IP. » Alors que non, dans le contrat, c'est marqué « Vous avez le droit de télécharger qu'une seule fois. » C'est pour ça qu'il faut bien définir les choses et aussi définir dans le contrat les audits, à quelle fréquence ils seront, qui fera les audits, ce genre de choses. Donc on a vu que bien définir les termes des contrats, c'est un enjeu primordial pour ce secteur de marché qui s'exprime en centaines de milliards d'euros, de dollars. Donc dans ce monde en fait, la propriété intellectuelle, elle n'est pas équitable selon les zones géographiques, en particulier sur le secteur de l'Asie. Pour protéger donc ces IP, la première idée c'est le brevet. Donc on crée une IP, on a une idée, on fait un brevet, donc on le dépose. Les brevets se déposent selon des zones géographiques et elles sont pas toutes couvertes. Et les couvertures sont pas les mêmes. En général, pour déposer un brevet, par exemple, ça va de 25 000 à 100 000 euros, si on veut protéger ça au niveau global, dans les plus gros pays. Ce système fonctionne assez bien dans les pays classiques, Nord-Amérique, Europe, et en Asie, c'est un peu plus compliqué. En particulier pour la Chine. Alors, la Chine donc accepte facilement à faire des contrats avec les autres personnes. Par contre, elle ne veut pas de dépendance technologique, c'est-à-dire typiquement ARM avait une dépendance technologique avec les Chinois parce que 98% des processeurs étaient ARM dans les smartphones. Du coup, ils ont obligé cette boîte à avoir donc une joint venture. Donc, en gros, c'est une entreprise chinoise dont les deux parties ont 50% du capital. Et du coup, la technologie transite par là. Et les Chinois donc doivent apprendre. C'est marqué dans le contrat qu'ils doivent expliquer comment ça fonctionne, quelle est cette technologie, et qu'ils doivent savoir la refaire. En réalité, ce qui se passe, c'est que c'est pas 50-50, c'est 80-20%. Il y a souvent des problèmes, mais le problème, c'est que si on refuse ce joint venture, les Chinois ne font plus de commerce avec l'entreprise. Et la plupart des grandes entreprises, Microsoft, Google, ARM, enfin, cèdent à ça. Donc pour conclure, on a vu que le secteur de l'IP, donc de la commercialisation en microélectronique, c'est un secteur assez technique, mais assez bien défini. Il y a quelques points spécifiques qu'il faut que je précise, c'est surtout sur la documentation en microélectronique, c'est que les articles de microélectronique sont souvent, à part la R&D, sont souvent donc plus d'actualité lorsqu'ils ont plus de 3 ans. Parce qu'en fait, ça bouge tellement vite que c'est vraiment quelque chose qui n'est plus qu'il faut revoir tout le temps. Donc c'est difficile d'avoir des informations sur où est-ce que ça en est, qu'est-ce qu'ils font. Pour avoir des informations, ce qu'il faut faire, c'est aller directement sur les sites des IP ou des fonderies, ou parce que les vendeurs, par exemple, si on va sur le site de Samsung ou d'Apple, il y aura plus les produits que vraiment la technologie en elle-même. Donc il faut aller vraiment chercher derrière, donc les fonderies et les vendeurs d'IP. Après, il y a peu, mais il y en a des newspapers qui sont spécialisés justement dans ces nouvelles technologies. Et donc je finirai en disant que la microélectronique cherche toujours l'innovation pour satisfaire donc l'appétit de la nouveauté et des clients. Et donc pour ça, il faut absolument faire des développements tout le temps avec des nouveaux produits, toujours apporter quelque chose de plus efficace, qui consomme moins d'énergie, qui soit plus adapté, qui aille plus vite. Et en fait, comme les cycles de production sont en général annuels, ça demande une grosse pression sur les fabricants, donc justement, et les concepteurs de microélectronique, enfin des produits de microélectronique. Et du coup, voilà, la microélectronique est un secteur qui est très dynamique, mais aussi très stressant, et qui est par contre avec un gros secteur de marché et qui apporte énormément. Et voilà, j'en ai fini. Merci beaucoup pour votre attention. J'espère que vous êtes toujours éveillé. Et je suis là si vous avez des questions.
Cool, merci beaucoup. Alors, le temps que faire un petit entracte, je vais aller couper les bottes et les relancer pour séparer les deux parties, exposer questions. Alors, une petite pause entracte.